Aujourd'hui, ben, je ne suis pas seule. C'est assez occupé ici en studio. Anouk Lanouette Turgeon, c'est notre maman invitée, maman bien impliquée au sein du regroupement Parents jusqu'au bout. C'est la maman également d'Élie, 5 ans, qui vit avec la trisomie 21, de Lassa, qui vit avec deux multi-handicaps pour Lassa de son côté. Une émission où on s'inspire du quotidien de notre parent invité, de son parcours, son cheminement, ses réflexions, ses intérêts. Et on débute toujours l'émission en parlant de cette photo, parce qu'on demande aux parents invités de nous dévoiler leur photo de famille préférée. Il y en avait plusieurs dans votre cas. On a choisi celle qui est prise par votre frère, je pense, hein, Anouk.
Celle-là, non. En fait, non? Ça a été pris par un ami, un très bon ami de mon frère et moi, Tristan Laliberté, pour ne pas le nommer. Qui était venu faire quelques photos.
C'est une photo que j'ai appréciée particulièrement. Et évidemment, je vais vous demander après de nous dire pourquoi elle est votre préférée. Mais moi, je l'aime parce que, peu importe, on peut la mettre dans plein de sens. Et là, il y a un accent qui est mis. Si je la mets dans ce sens-là, eh bien là, on voit très, très bien Élie. Si je la tourne, on voit mieux votre conjoint. Et il y a cette... ce chandail d'Élie où on voit le nord, le sud, on appelle ça une rose des vents et qui nous détermine un petit peu le sens. J'ai trouvé ça vraiment magnifique. Pour vous, c'est votre préféré. Pourquoi?
J'avais jamais remarqué qu'est-ce qu'il y avait sur le chandail d'Élie, en fait. Ben oui, c'est vrai. Ça fait presque concept, là, mais c'est un peu hasard. Ben, c'est une photo où on est tous les quatre couchés à terre sur le sol. On regarde en haut et le photographe est au-dessus de nous en contre-plongée direct, là, en tout cas. Mais c'est ça, donc on est tous sur le même plan. C'est ce qu'on a trouvé comme solution pour que personne soit flou.
Ouais.
Parce qu'on essayait, c'est dur de prendre une photo de famille à quatre où on va voir tout le monde clairement, donc c'est ce qu'on a trouvé de mieux. Alors, ben je l'aimais pour ça, justement, c'est que on est tous sur le même plan aussi. Ça annule un peu le fait que, mettons, Lassa n'est pas capable de marcher ou, tu sais, on est tous couchés, on est tous égaux,
ouais,
dans le fond.
Au même niveau, ensemble.
Oui, puis on se touche, on est comme un par-dessus l'autre. Ça fait un peu désordre, mais ça fait un peu chaos familial, quoi.
Le désordre, est-ce que ça qualifie bien votre famille, Anouk?
Oui. Non, mais carrément. Et notre intérieur, non, mais bon... Dans la vie qu'on a, justement, au quotidien, c'est assez difficile de maintenir l'ordre juste au niveau même matériel dans la maison, là. Donc, on gère le chaos.
Vos enfants vivent avec des différences différentes pour chacun d'entre eux. Mmh. Vous les appelez d'ailleurs vos organismes neurologiquement modifiés.
Oui. Mais, ben, en fait, j'avais, oui, utilisé ça dans un texte poétique parce que, ben, effectivement, c'est dans les deux cas, c'est des différences qui sont identifiables à un niveau neurologique. Pur hasard de la génétique, là, parce que, bon, c'est deux diagnostics qui ne sont pas reliés du tout. Élie a une trisomie 21. Quelque chose d'assez courant, somme toute, que les gens connaissent bien. Mais dans le cas de Lassa, c'est beaucoup plus rare et c'est encore... En fait, on connaît pas la cause. Oui. Ils appellent ça une encéphalopathie d'étiologie inconnue. C'est-à-dire qu'essentiellement, son cerveau fonctionne mal, très mal, donc ce qui occasionne de multiples handicaps, multiples problématiques. Mais on n'a pas identifié vraiment la cause. On a identifié plusieurs conséquences.
Ouais.
Donc, elle a de l'épilepsie, elle a une hypotonie sévère, elle a une cécité corticale aussi, c'est-à-dire que, en fait, ses yeux sont corrects, mais le cerveau ne reçoit pas l'image. Donc,
de là, la teinte neurologique, un petit peu, dont vous parliez, ouais.
Ben, dans les faits, c'est comme si elle ne voyait pas ou on ne sait pas qu'est-ce qu'elle voit. T'sais, elle voit peut-être des lumières, des ombres, des formes. Des fois, on dirait qu'elle suit quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Bref, elle n'est pas dans la même réalité que nous au niveau visuel. Et elle n'a pas beaucoup de développement ni moteur ni cognitif. Là. C'est vraiment très, très limité. Mm-hmm. C'est une enfant d'une beauté resplendissante, par ailleurs, qui fait des sourires magnifiques.
Et vous dites aussi, d'Élie, et ça m'a marqué, que c'est un enfant heureux qui se développe très, très bien aussi.
Mm-hmm. Ben oui, moi vraiment, la trisomie, comme je dis souvent, là, j'ai deux cas spéciaux, mais bon, la trisomie, honnêtement, pour moi, c'est un bonheur, là. C'est pas... En fait, c'est Élie qui est un bonheur. C'est pas la trisomie comme telle, mais c'est... quand on va au-delà du diagnostic, justement, puis qu'on rencontre l'enfant, on se dit, mon Dieu, quel... c'est un enfant lumineux. C'est presque cliché de dire là, que les enfants trisomiques sont toujours heureux. C'est faux. C'est pas vrai dans le cas de tous les enfants, mais dans le cas de cet enfant-là, vraiment, c'est un bonheur. C'est un... Pour moi, là, c'est vraiment un carburant. C'est au-delà de ce que j'imaginais vraiment, là, parce que j'avais entendu beaucoup de témoignages de parents qui étaient super heureux avec leur enfant trisomique, puis qui regrettaient absolument pas le choix de l'avoir gardé dans le cas de ceux qui ont eu le choix. Là. Bon.
Et vous, vous avez jamais hésité. À 20 semaines, on vous dit qu'il y a de fortes chances que l'enfant que vous portez...
Pas de fortes chances, on me confirme. C'est un diagnostic.
C'est un diagnostic. Ouais. Et il n'y a aucun doute avec votre conjoint, on le garde, c'est sûr, c'est certain.
Oui, ben, tu sais, c'est un choc quand même, là, mais... pour nous, c'était inconcevable de choisir l'avortement pour un cas de trisomie 21. Là. Ça n'aurait pas été le même choix si ça avait été une trisomie 18 ou 13, qui sont des trisomies beaucoup plus graves qui, en fait, les enfants meurent en général pendant la grossesse ou dans les premiers jours ou mois de vie. Et ils ont des conséquences beaucoup plus lourdes là, physiquement. C'est des enfants qui ont... C'est pas viable comme condition. Donc là, ça aurait été un autre choix. Là. Mais pour la trisomie 21, moi, j'ai fait toutes les recherches que j'ai pu. Je me disais, est-ce qu'il y a quelque chose que je rate quelque part? Là? Comment ça se fait qu'il y ait un taux d'avortement aussi élevé? Je vois pas, moi, qu'est-ce qui me convaincrait de choisir l'interruption de grossesse. Là. Donc, et on était sur la même longueur d'onde, par chance, avec mon conjoint. Donc, ça a été... C'était ça.
Vous avez parlé, Anouk, des manifestations du handicap de votre fille, de votre garçon. Et on se dit... Toutes ces responsabilités, ou du moins comment ça se manifeste, les manifestations, ça amène des responsabilités. Ça amène des suivis médicaux, une médication. On entend souvent qu'un parent d'enfant handicapé est presque un adjoint administratif de son enfant. T'sais, il y a la paperasse à remplir, ça nous tient occupés. On sait qu'on sera occupé lorsqu'on a des enfants différents. Est-ce que l'on sait que l'on devient aussi une militante et qu'on sera engagée dans une cause qui nous dépasse un petit peu?
Ben moi, j'avais rien prévu de tout ça. Là. J'étais... c'est vrai que c'est beaucoup de secrétariat. Moi, je me considère comme vraiment là, la secrétaire de mes enfants. Gérer l'agenda pour deux enfants avec des besoins particuliers, c'est complètement fou. Là. C'est vraiment... c'est un horaire très serré.
Oui.
J'ai réussi à travailler, moi, à travers tout ça, à temps partiel, mais quand même. Le côté militant, honnêtement, c'est venu tout seul, puis je m'y attendais pas. Je prévoyais pas non plus avoir ce temps-là dans mon horaire. Je l'ai forcé. Là. J'ai décidé que je le prendrais parce que c'était une priorité pour moi, mais bon, c'était pas prévu. mais en même temps, ça m'étonne pas de moi-même. Là. Je pense que j'avais tout ce qu'il faut, mais bon. c'est pas dans mes plans, disons. Mais en fait... si on parle de parents jusqu'au bout, moi, au départ, quand Ellie était tout bébé, il y a eu une forme d'épilepsie très grave, puis il a été hospitalisé pendant 5 mois de temps. Et ça, c'était vers la fin de mon congé de maternité, donc j'ai pas pu retourner au travail à la date prévue. Puis là, je me suis mis à faire des recherches sur qu'est-ce que je peux avoir comme aide financière dans cette situation-là précise. La réponse était zéro.
Ouais.
Donc là, j'ai un petit peu pogné les nerfs, mais dans le vide tout seul parce que j'étais pas Facebookée, j'étais pas réseautée socialement, virtuellement. J'étais tout seul dans ma chambre d'hôpital. Là. Mais c'est à ce moment-là que j'ai dit ça n'a pas de sens. Là. Il faut que quelque chose se fasse. Là. Donc, quelques années plus tard, quand j'ai assisté à la naissance de parents jusqu'au bout, à la création du mouvement, là, je me suis réjouie. J'ai fait yes.
Et justement, on parle à l'une des mamans de parents jusqu'au bout. Deuxième partie de cette émission, Portrait de famille, c'est toujours, Marianne Paquette au micro et Anouk Lanouette-Turgeon, c'est notre maman invitée aujourd'hui, maman d'Élie et de Lassa. On parlera tout à l'heure avec Louis Fortin, il a 18 ans, il vit avec une déficience visuelle. Il sera là avec Najla Nouri, elle, intervenante de l'INCA, pour nous parler d'un groupe de soutien qui s'adresse aux 11 à 17 ans, un groupe de soutien pour ces ados qui ont envie de s'exprimer sur leur déficience visuelle et d'être accompagnés dans différents défis qu'ils ont à rencontrer. Également, Nago Humbert sera là. Il est, lui, du côté chef des services des soins palliatifs pédiatriques au CHU Sainte-Justine, professeur à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, et pour nous parler des soins palliatifs pédiatriques. Mais d'abord, de retour avec Anouk. Pour cette deuxième partie, j'avais envie de revenir sur la discussion que l'on a eue tout à l'heure avec Geneviève Dion de Parents jusqu'au bout. Ça a changé des choses, Parents jusqu'au bout. Ça a eu des retombées positives dans votre vie.
Oui. Je pense que c'est le cas pour les quatre moments là, de parents jusqu'au bout, évidemment. Ben moi, je dirais, il y a plusieurs mots qui me viennent, là, mais je dirais en premier, ça a été, disons, la victoire a été un soulagement, disons, au terme du processus. Là, ça a été vraiment, ça a été très intense là, pendant les mois de combat. Là, c'était vraiment à chaque jour, plusieurs heures. Là, ça s'est vraiment intensifié, surtout vers la fin. Là, il était temps que ça aboutisse parce qu'on était vraiment à bout, c'est le cas de le dire.
Ouais.
soulagement pour nous, pour plusieurs centaines de familles aussi. Fierté infinie.
Ouais. Ouais, c'est sûr.
Moi, je travaille en employabilité, puis on dit toujours à nos candidats, tu sais, parler de vos réalisations. Là, moi, je pense que c'est comme la plus grande réalisation de ma vie jusqu'à maintenant. Là, ouais. Parce que, bon, ça va avoir un impact sur d'autres gens que juste ma cellule familiale. Ça a fait qu'on a obtenu de la reconnaissance, des critiques aussi, parce qu'il y a toujours des gens qui sont heureux de chialer dans leur salon. Bon, peu importe, mais... Donc, il a fallu apprendre à composer avec ça tout en restant diplomate, etc. Oui. Bon. Mais dans les retombées positives, je dirais aussi la création d'amitié
oui.
vraiment très solide avec ces autres mères-là, les trois autres de parents jusqu'au bout, mais aussi avec beaucoup d'autres mamans qui nous suivaient de très proche avec, dans les réseaux sociaux, puis qui sont partout au Québec, dans toutes les régions du Québec. On est capable de se parler... live en direct. Puis on est assez proche quand même de beaucoup de ces familles-là. Puis ça aide à vivre, là, vraiment, tu sais, de savoir qu'on n'est pas seul, là, c'est fou.
Ouais. Ce réseau-là semble avoir été pas mal toujours présent. Le conjoint, la famille, les amis, souvent les parents d'enfants.
Quand les familles éclatent pas, là.
Quand les familles éclatent pas. Souvent, on va entendre parler d'isolement. Dans votre cas, ça semble pas s'être passé de cette façon-là.
Non. Ben, je suis un animal très social, là, moi, là, à la base. Donc, je sais pas, c'est quelque chose qui est resté dans ma vie. J'ai pas fait fuir mes amis. On sort beaucoup moins qu'avant, mais les gens viennent chez nous. Puis,
ouais.
On n'a pas non plus, on s'est pas refermé trop sur notre propre cellule. Puis nos enfants sont des êtres éminemment sympathiques quand même. Je veux dire, Ellie, c'est un magnet, là, c'est un aimant. Tout le monde adore cet enfant-là. Puis bon, ben Lassa est beaucoup moins interactive, mais disons, elle n'est pas dérangeante. Elle fait des beaux petits sons, des beaux petits sourires. Tu sais, ce pas des enfants qui font fuir les gens. Bon. Moi et mon conjoint, on est restés unis aussi, ce qui n'est pas le cas de tous les couples, là, quand même. C'est aussi, je dirais, c'est une combinaison de chance et de travail, là. Parce que bon, on était sur la même longueur d'onde au départ, on l'est resté. C'est un peu un hasard, mais c'est aussi quand même un travail dans le sens où on est vraiment une équipe, tu sais, puis on a chacun nos tâches, puis ça roule, tu sais, toute la journée là.
Oui, on le disait tantôt, presque adjoint administratif, assistant de son enfant.
Ouais.
Vous avez parlé de réalisation. L'une des réalisations dont vous êtes fière aussi, c'est d'être retournée ou du moins d'être restée sur le marché du travail. Le boulot, c'est important pour vous?
Bien, en fait, je pense que c'est dans une optique un peu plus d'équilibre psychologique. Ce qui est important pour moi, c'est de sortir de chez nous.
Mm-hmm.
Si je ne travaillerais pas, je ferais du bénévolat, mais bon, comme je n'ai pas les moyens de n'être que bénévole, là... Il faut quand même ramener quelques dollars à la maison. Donc, j'ai réussi à continuer à rester sur le marché du travail. Je me suis absentée pour mes deux enfants pour des congés de maternité qui ont été prolongés dans les deux cas. Là. Mais je suis revenue chaque fois, mais je suis revenue à temps partiel. Donc là, je suis à 20 heures semaine. J'ai un emploi qui m'a permis ça. J'ai une directrice fabuleuse que je vais nommer Marie-Josée Duplessis chez ALPA, accueil et liaison pour arrivants. Je travaille dans un organisme d'accueil des nouveaux arrivants. Bon, puis j'ai la chance justement d'avoir une directrice qui accepte que je fasse des heures disparates en fait, là, parce que j'ai un horaire qui change à peu près chaque semaine. Je fais 20 heures, mais je mets
les
mêmes.
Selon les rendez-vous, les suivis.
C'est sûr, parce que c'est... Bon, en tout cas, je gère l'agenda familial et donc il y a des rendez-vous qui sont les mêmes chaque semaine, à la même heure chaque fois, mais il y en a d'autres qui varient. Donc, c'est un casse-tête, là, mais je gère ça. Et oui, c'est important pour moi de rester sur le marché du travail parce que Ben, je suis une femme de l'an 2000. Non, mais je me serais pas vue complètement être à la maison tout le temps. J'aurais pété ma coche, là, sérieusement. Juste sûr. En tout cas, je pense que honnêtement, psychologiquement, ça n'aurait pas pu durer. Puis j'ai la chance aussi d'avoir un conjoint qui est un travailleur autonome, qui a un horaire atypique. Bon, il est musicien, professionnel, donc il n'y a pas non plus d'horaire de 9 à 5, là. Donc, on réussit à combiner nos deux horaires pour qu'il y en ait tout le temps un qui puisse s'occuper.
Et à rester cette équipe formidable que vous êtes.
Oui.
Anouk, je voulais parler d'un sujet aussi qui est peut-être un petit peu plus délicat, celui du deuil.
Mm-hmm.
Vous avez dit le deuil en ce qui a trait, suite à la naissance d'Élie, en ce qui a trait à sa trisomie 21, ça a passé.
Mm-hmm.
Avec le temps, ça a réussi à passer. Celui, suite à la naissance de Lassan, qui vit avec, bon, multiples handicaps, a été un petit peu plus difficile pour vous, de votre côté.
Ben oui, en fait, parce que les limites de Lassan sont beaucoup plus grandes que celles d'Élie. Élie, c'est un enfant qui fait tout ce qu'un enfant régulier fait. C'est juste que ça prend beaucoup plus de temps. Mais puis, à la limite, moi, je dis les enfants trisomiques, honnêtement, là, je trouve qu'ils ont quelque chose de plus même que les enfants réguliers. Tu sais,
un petit supplément d'âme.
Il y a quelque chose de vraiment spécial. Ils ont des forces aussi dont on parle peu, là, mais ils ont quelque chose vraiment de magique, à la limite, ou de supranaturel. Là. C'est magnifique. Je suis pâmée sur cet enfant-là. Là. C'est... Donc, bon, c'est dit. Dans le cas de Lassa, je l'aime de tout mon cœur aussi, puis c'est un enfant magnifique, mais elle est tellement limitée que, pour moi, c'est sûr que c'est un deuil impossible à faire parce que, premièrement, bon, je suis athée, là, moi, je pense pas que Dieu m'a choisi pour vivre l'épreuve et que cet enfant est un cadeau, là, je veux dire, franchement, non. C'est ça, c'est une enfant qui est privée de presque tout.
Ouais.
Donc, je me permets pas de juger que sa vie vaut pas la peine, là, parce que je pense pas que c'est le cas. C'est un enfant qui sourit, c'est un enfant qui a pas l'air malheureuse, qui a pas l'air mal. On sait même pas si sa condition est dégénérative ou non, mais elle semble pas l'être de façon rapide, en tout cas, si jamais ça l'est. Bon, donc, on prend ça au jour le jour, puis on essaie de composer avec ça, mais c'est ça. Je trouve que les limites sont tellement grandes.
Ouais.
C'est... Même des enfants avec paralysie cérébrale sévère vont des fois quand même apprendre à parler, vont au moins interagir, vont peut-être être capables de se rouler tout seul en fauteuil roulant. Ou bon, là, ça, c'est rien de ça. Là. C'est comme, il y a à peine une interaction, elle réagit quand on lui touche un peu, mais il n'y a pas de contact visuel, elle ne parlera pas, elle ne marchera pas, elle n'apprendra jamais à lire ou à, tu sais, elle ne pourra jamais avoir d'amis. Tu sais, c'est ça, c'est beaucoup, je trouve ça très lourd, ouais. Carrément. Oui.
On parle à quelqu'un dans quelques minutes, Anouk. Vous m'avez dit « je l'aime beaucoup, mais je préfère pas le voir trop souvent parce que quand je le vois, ça veut dire que ma puce va pas bien ».